Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
On va continuer sur le commentaire sur l'Apocalypse. Et je vous rappelle que nous avions vu déjà tout le premier chapitre. Et nous avions vu que l'Apocalypse est un livre très particulier. Nous avons vu que ça veut dire révélation, hein, c'est traduit Apocalypse en français, je sais qu'en Kirundi c'est bien traduit. C'est un livre qui clôture la révélation que Dieu voulait donner aux hommes. Nous avons vu qu'il y a des choses dont il faut faire attention quand on étudie ce livre. Entre autres que c'est le livre de l'histoire finale de l'humanité.
Ce
n'est pas un livre de catastrophe, parce que malheureusement, on a toujours associé le mot apocalypse avec les catastrophes. C'est vrai qu'une bonne partie de l'apocalypse va se concentrer sur la tribulation, ça c'est clair. Mais souvent, on a l'impression que c'est le diable, c'est l'antichrist, c'est 666, c'est le faux prophète, etc. Et constamment, les gens sont fixés sur ce genre de choses. Donc après, ça leur fait peur. Alors, c'est pas un livre pour nous faire peur. C'est un livre qui nous raconte que Dieu aura le dernier mot. Et qu'il faut qu'on soit du côté de Dieu pour être avec lui, pour avoir le dernier mot. C'est bon d'être du bon côté, non? Vous
n'êtes
pas heureux d'être du côté du Seigneur? C'est important d'être du bon côté, frère. Moi, je ne veux pas être du mauvais côté. Hein. C'est pour ça que j'ai la foi dans mon espérance qui est vivante. Et c'est important de savoir qu'on est du bon côté, frère. C'est vraiment ce livre qui nous montre ces choses. Il nous montre la révélation de la gloire de Dieu. Et en fait, il nous montre aussi que nous devons prévenir les pécheurs. Et il faut faire attention de ne pas spéculer sur les événements qu'on entend à la radio et à la télévision. Et nous le verrons parce qu'il faut faire très attention à cela. Ce qui va être marqué dans ce livre comme événement prophétique, nous ne le verrons pas parce que nous verrons que de toute façon nous serons déjà enlevés. Dieu a écrit ça pour que nous prévenions les pécheurs de se repentir. Et il nous a aussi écrit ça pour que nous puissions vraiment être témoins de ces choses à partir du ciel. Alors, nous avions vu le plan de l'Apocalypse, c'est ce que nous suivons d'ailleurs régulièrement. Ensuite, on voit que Jean va recevoir une vision absolument extraordinaire. Il va recevoir la vision de Jésus glorifié. Et on a vu vraiment que cette vision de Jésus glorifié
était
très différente de Jésus ressuscité. On a vu que Jésus dans le ciel est rempli de gloire. Et quand Jésus apparaît à Jean, il se prosterne complètement devant lui. Il est comme mort sous la puissance de Dieu. Alors que le même Jean avait vu Jésus plusieurs dizaines d'années avant. À la fin de l'évangile de Jean. Vous vous rappelez quand il y avait cette histoire avec Pierre, m'aimes-tu ?
Et
bien Jean avait vu Jésus ressuscité. Et là, il n'est pas tombé sous la gloire de Dieu.
Parce que
Jésus a été glorifié.
Il
a reçu toute la gloire. Alors qu'il est remonté à la droite du Père.
Et c'est
justement ce que Jean va voir de Jésus.
Et ça
c'est extraordinaire. Nous avons une merveilleuse vision ici.
Et puis
nous avons vu qu'à la fin du premier chapitre, eh bien, le Seigneur va dire qu'il va adresser aux sept églises un message. Et nous avons vu que sur chaque œuvre de Dieu, il y a un ange. Un ange qui protège. Un ange qui transmet les messages. Un ange qui est là pour veiller sur l'œuvre de Dieu. Et je vous ai montré qu'il faut faire très attention. Tout ce qui se dit d'être de Dieu n'est pas forcément œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention où nous sommes. Ce que nous suivons comme œuvre. Alors Jésus va adresser donc un message à sept églises, les unes après les autres. Et puis je vous ai montré que ce message, souvent, pour chaque église, était comparé assez souvent par les théologiens, par différentes périodes de l'histoire de l'Église.
Et en fait,
je trouve que ce commentaire-là n'est pas tout à fait bon. C'est vrai qu'il y a certains parallèles, entre autres avec la période apostolique, de l'Église apostolique, de l'Église persécutée du 2e siècle, de l'Église impériale, où il va y avoir un amalgame entre l'Évangile à partir du 3e siècle et jusqu'au 5e siècle, un amalgame entre l'Évangile et puis le paganisme. Puis l'Église du Moyen-Âge, qui était très religieuse, que ça a duré plus de 1000 ans. Puis d'un seul coup, l'Église réformée, l'Église moderne. Mais ce que je n'aime pas souvent dans ce commentaire, c'est qu'on dit que la dernière église va représenter, la septième église va représenter ce qu'on appelle l'église apostate, c'est-à-dire l'église en fait qui en fait a perdu toute puissance, qui en fait n'a même plus vraiment la foi. Parce que la Bible nous montre clairement qu'avant le retour de Jésus, ça va secouer dans le monde spirituel.
Et
il va y avoir de grands réveils sur la terre. Un grand réveil mondial. Parce que de toute façon, il faut que Jésus engrange le plus possible d'âmes qui viennent au Seigneur. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un maximum au ciel. Et aujourd'hui, il faut le dire, si on pouvait comptabiliser tous ceux qui sont au ciel maintenant, par rapport à ceux qui sont en enfer, eh bien aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de monde en enfer. Donc, Jésus va envoyer un grand réveil. Et il y a des endroits du monde qui ont besoin d'être secoués par des réveils qui n'ont jamais été secoués par des réveils. Donc c'est pour ça que cette interprétation sur chaque église qui correspond à une période, je ne suis pas trop d'accord.
Mais
on va pas se bagarrer avec les théologiens. Par contre, ce qui nous intéresse là ici dans le message aux sept églises, c'est que chaque église va avoir des caractéristiques, des points forts et des points faibles.
Et
ça, c'est intéressant parce que ça nous enseigne sur quelque chose. Donc, nous avions vu que ces sept églises étaient dans la Turquie, hein, la Turquie, l'ouest de la Turquie.
Si on peut
remettre les cartes, s'il vous plaît, merci.
Et
en fait, ces sept églises représentaient tout un chemin, en quelque sorte, qu'on pouvait faire d'ailleurs. Et que en fait, donc ça c'est l'ouest de la Turquie.
Hein.
Et en fait, toutes ces églises étaient assez proches les unes des autres. Nous avons vu que lorsque Jean reçoit ce message aux sept églises, nous n'avons dans la Bible, je dis bien dans la Bible, qu'une seule église dont on connaît vraiment l'historique, c'est Éphèse. Et on a vu qu'Éphèse a été fondée par Paul qui avait trouvé un petit groupe de prière de 12 personnes qui battaient de l'aile spirituellement.
Et
pendant 3 ans et demi, Paul va rester à Éphèse et ça va être une révolution dans d'ailleurs toute cette région où vous voyez aujourd'hui, vous voyez les sept églises.
Paulo acamara imyaka 3 n'inusu hacha habikangoro ridasanzwe ibintu birahinduka.
Ça s'appelle l'Asie mineure. C'est une province justement de l'ouest de la Turquie. Alors nous avions étudié Éphèse. On a vu que Éphèse, ça nous montre, ça nous donne vraiment l'idée d'une église qui est bien enseignée. Qui porte des fruits. Elle amène des âmes au Seigneur, mais pas trop quand même, faut dire. Elle est surtout bénie, 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 bénie. Elle s'est puisée dans son héritage en Christ. Elle a la persévérance. Et on a donné la définition de la persévérance. Je rappelle que c'est appliquer les lois spirituelles dans un milieu hostile jusqu'à ce que ce milieu soit influencé par les lois du royaume de Dieu. Évidemment, les appliquer sans se relâcher jusqu'à temps de voir l'influence et la manifestation du royaume de Dieu dans les circonstances. On a vu que cette église savait éprouver les ministères. Et je vous ai montré que c'est très important. On
ne
peut pas laisser n'importe qui se faire appeler serviteur de Dieu, venir prendre, de parler devant l'église et dire n'importe quoi. Ça peut être extrêmement dangereux pour les chrétiens. Parce qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs. Il y a des gens qui vous créent du désordre quand vous leur laissez la parole dans une église. J'ai vu des gens se disputer après avoir entendu un prédicateur. J'ai entendu des églises se diviser après qu'un invité ait été invité dans une église. Frères et sœurs, ce sont des choses qui existent. Et il faut vraiment éprouver les serviteurs. Et je vous rappelle qu'ici, c'est vraiment le caractère du serviteur. Les motivations profondes du serviteur. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et beaucoup de gens aujourd'hui veulent se faire servir. Nous avons vu que nous tenir dans la vérité, si cette église le faisait, ça lui coûtait cher, c'est-à-dire qu'elle souffrait pour cela.
Et
nous avons vu ce que Jésus lui reprochait, c'est qu'elle avait perdu le feu du premier amour.
Et je vous
ai montré que ça, c'est très important de comprendre qu'au début, souvent, on a un amour sentimental vis-à-vis du Seigneur. Mais il faut que ça se transforme en un réel amour d'aimer Dieu pour qui il est. C'est la même chose dans n'importe quelle relation. Parce que le feu du premier amour passera toujours. Et le feu du premier amour n'est pas l'amour divin. C'est un amour qui est sentimental.
Et
je
ne
peux pas aimer Dieu sentimentalement. Sinon, quand tu vas bien te sentir, tu vas vouloir le louer. Et quand les choses ne vont pas bien aller, tu vas aller te plaindre. Cet amour doit être transformé en amour d'expérience. Qui scelle un réel amour avec Dieu. Où tu n'aimes plus Dieu parce qu'il te bénit, mais tu aimes Dieu pour qui il est. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu rentres dans cette dimension-là, il
n'y
a plus rien qui peut t'arrêter.
Le
feu qu'il y a en toi, c'est un feu qui amènera les transformations dans ta vie.
Et
par quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passeras, tu sortiras toujours vainqueur et puissant, transformé. Mais ça, c'est une période où les gens doivent comprendre que ça doit changer. Donc cette église était comme ça, malheureusement. Elle était très bénie, mais elle avait vraiment besoin de revenir à son premier amour.
Être
brûlant d'amour pour Dieu. Ensuite, nous avons vu les œuvres des Nicolaïtes. Et on a vu que c'était utiliser les dons de Dieu à des fins perverses. Alors, nous avions vu l'église de Smyrne aussi. Et nous avons remarqué que l'église de Smyrne, c'est l'église qui ne règne pas, qui n'arrive pas à régner. Et Jésus se présente directement comme le maître de l'univers, de la création. Et pourquoi Jésus se présente comme ça? Parce que cette église avait du mal avec ses circonstances. L'église de Smyrne, c'est l'église typique qui ne marche pas dans son héritage en Christ. Et qui se fait dominer par le monde. C'est-à-dire l'église qu'on calomnie, qu'on insulte. C'est l'église pourtant qui prie, mais c'est l'église qui n'a pas de puissance. Elle dit, si Dieu veut ça, Dieu va le faire, si Dieu ne veut pas, ou si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il ne le voulait pas. Mais c'est l'église qui a une image qui est mauvaise de Dieu, qui souffre et qui souffre inutilement, mais qui n'a pas de mauvais motifs. Par contre, elle pourrait vraiment changer, mais elle se contente de peu. Mais elle est toujours mise dans un petit coin, toujours refoulée par les païens, et les païens dominent sur cette église. Pas avec le péché, mais dans le sens au niveau de l'influence. Et c'est pour ça que vraiment Jésus les encourage ici. Parce qu'il voit vraiment une chose, c'est que ce n'est pas une église qui est prête à sortir réellement et à marcher dans la victoire. Donc Jésus est obligé de l'encourager au verset 10.
Dire,
vous allez subir des moments difficiles, mais bon, ne crains pas. Vous savez, quand Jésus dit à quelqu'un dans sa parole, ne crains pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup grandi dans la foi. Ne crains pas, ne promène pas tes regards inquiets. Tout ça, c'est bien, on te le dit quand tu es bébé spirituel. C'est les prophéties pour les bébés spirituels. Parce que quelqu'un qui marche dans la foi, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les les circonstances. Quelqu'un qui marche dans la foi, c'est quelqu'un qui domine les circonstances. Donc c'est pas quelqu'un qui va craindre les circonstances. Mais c'est quelqu'un qui domine les circonstances. Cette église était encore en état de bébé spirituel. Mais Jésus console cette église. Vous savez, Dieu nous parle. Dieu nous parle à la mesure de notre croissance. J'aimerais bien que vous saisissiez ça. Dieu te parlera personnellement à la mesure de ta croissance. Il
ne
va pas te révéler de très grandes choses si tu n'es pas capable de les supporter. Si tu es tout le temps en train de chercher une parole de Dieu, de réconfort, Dieu va te les donner parce qu'il te prend là où tu es, au niveau où tu es. Je connaissais pas mal de gens comme ça. On était dans les milieux charismatiques en France. Et il y avait vraiment beaucoup de gens très émotifs. Et tous les jours, ils voulaient des paroles comme ça de consolation. Au moindre petit problème, « Ah, oh, Seigneur, il faut que tu me parles. » S'il te plaît, Seigneur. Bon, ça c'est bien quand t'es bébé. Mais il y a un temps où Dieu veut donner des choses plus consistantes. Et il peut seulement te les donner à partir du moment où tu as commencé à grandir. Que quelqu'un dise Amen.
Amen.
Merci. Sachez-le, Dieu te parle là où tu en es. Si tu es constamment découragé, Dieu va t'encourager, oui. Il donnera les paroles d'encouragement. Mais il y a un moment où tu dois commencer à aller beaucoup plus haut. Un moment où vraiment, les choses doivent changer dans ta vie. Où tu domines. Où tu sais marcher dans la foi. Et que
tu
n'es plus en train de chercher le Seigneur parce que tu as besoin d'encouragement. Ou de consolation. Ou dire, Seigneur, je ne comprends rien à la situation. S'il te plaît, Seigneur, éclaire-moi. Non, il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que tu dois expérimenter. Donc Jésus vraiment est très bon, console cette église par rapport aux moments difficiles par lesquels elle passe. Alors nous avions commencé, je crois, l'église de Pergame, non? Je crois que c'est ça. Hein? On en était à Pergame. Pergame, nous avons vu que Jésus se présente comme celui qui a l'épée à deux tranchants. C'est-à-dire, l'épée à deux tranchants, c'est la parole. Hébreux 4:12, nous avions vu. Mais Jésus va reprocher quelque chose de terrible à cette église. C'est qu'en fait, cette église laisse quoi ? Laisse des manifestations démoniaques se produire dans l'église. Et ça, vraiment, c'est une église qui ne va pas du tout. Jésus leur dit, finalement, vous êtes dans les histoires des Nicolaïtes. Encore une fois. Et en fait, Jésus va vraiment leur reprocher. Et voir qu'il y a des gens au milieu d'eux qui séduisent des chrétiens. Et les chrétiens se laissent avoir. Et ils vont vers le péché. Et ils pêchent ouvertement. Les idoles. La débauche. Et en fait, on le sait. Elle vit dans le compromis, cette église. C'est ouvert. C'est le paganisme qui est entré dans l'église. Et vous savez, dans cette région du monde que nous avons vue tout à l'heure, l'Asie mineure, si par exemple vous lisez l'épître aux Colossiens, vous verrez qu'il y avait beaucoup d'influence du monde, des philosophies du monde, des trucs bizarres du monde qui s'infiltraient dans les églises. À tel point que Paul a dû dire à l'époque que si quelqu'un prêche un autre évangile qu'il aurait reçu d'un ange, bien qu'il soit anathème. Parce que ce n'est pas la vérité. Et dans l'épître aux Colossiens, par exemple, clairement, Paul remet les pendules à l'heure sur la divinité et l'humanité de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y avait des influences d'esprits sataniques, de philosophie, qui s'étaient infiltrées dans l'Église à l'époque. Et on voit, et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Asie mineure, il y a eu beaucoup ce problème-là dans les églises. Vous savez, je suis en train de vous faire cette série sur le monde invisible. Et je vous montre que le monde invisible influence le monde visible. Et vous savez, partout dans le monde, l'Église de Dieu doit résister aux influences sataniques. Les influences sataniques, on en trouve à droite à gauche. Quand on voyage, c'est très facile de voir ça. Vous allez dans certains pays où on voit par exemple que l'homosexualité est quelque chose, ça devient normal, légal, même d'adopter des enfants. Ces trucs-là essayent de rentrer dans les églises. Bon, par exemple, si vous avez beaucoup d'incrédulité quelque part, par exemple sur Paris, il y a beaucoup d'incrédulité. Les gens vous diront, on ne croit pas en Dieu. Laisse-nous tranquille avec tes histoires. Beaucoup de gens sont comme ça. Et vous verrez dans les églises, souvent les gens veulent résonner à 100% la parole. Influence. Influence. Vous allez au Congo, par exemple, ou vers l'Afrique de l'Ouest, mais les gens ont été trempés tellement dans la sorcellerie que quand ils se convertissent, il faut être très clair par rapport à ça. Aider les gens, parce que les gens ont tendance à voir la parole de Dieu, les choses de Dieu, avec leur mentalité d'avant. Je parlais avec un pasteur récemment quand j'étais en Côte d'Ivoire. Il me disait, quelque temps après où j'ai commencé l'église, je sais plus, il m'avait dit, des fois, dans la journée, il y a 50 ou 60 personnes qui venaient me voir. Et en fait, comme si j'étais une sorte de marabout pour eux. Des chrétiens. Et il était obligé de lutter contre ça. Parce qu'il a dû enseigner l'église. Il a dû montrer vraiment la vérité de la parole. Mais au début, les gens étaient comme ça. Ils prenaient un peu comme le marabout, celui qui va résoudre leurs problèmes avec des petits coups magiques. Bon, bien sûr, des petits coups magiques de Jésus, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire?
Le
mélange. Et là, on voit que ces églises-là sont influencées par quelque chose. Et particulièrement Pergame, on verra que Thyatire, c'est pareil. Ils sacrifiaient des choses, ils sacrifiaient aux idoles, des animaux. Ils avaient des relations sexuelles illicites avec des prostituées dans les temples. Et Jésus leur reproche ça. Et en fait, il va dire la chose suivante. Il va dire, repens-toi, verset 16. Et rappelez-vous, Jésus nous laisse toujours une porte à la repentance. Jésus nous laisse toujours une porte à la repentance. Il veut toujours un reste qui ne se compromet pas. Sinon, Jésus dit bien, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça veut dire que ma parole, l'épée de ma bouche, la parole va venir et clairement exposer ces gens-là. Et quand les gens sont exposés dans l'église, quand il y a des gens parfois qui sont dans des églises où, où le pasteur n'est pas suffisamment enseigné,
où
il ne comprend pas bien le monde spirituel, et d'un seul coup Dieu commence à lui révéler des choses, là les gens sont exposés. Et les gens qui fonctionnent avec des esprits sataniques, à ce moment-là, dans ces églises-là, au bout d'un moment, partent. Si on se tient pour la vérité, la vérité triomphe toujours des ténèbres et de l'erreur. Mais pour ça, il faut toujours des gens qui se tiennent pour la vérité. De dire non, nous dénonçons ces choses. C'est la parole de Dieu qui prédominera. Parce que parfois, vous savez, les gens, quand ils se convertissent, ils ont des croyances bizarres. Et quand vous avez beaucoup de gens qui se convertissent d'un seul coup, qui ont des croyances bizarres, ils essayent de les amener dans l'église parce qu'ils pensent que c'est normal.
Il y a
cette influence du monde. Quand on a été éduqué dans ces choses, d'un seul coup on se donne au Seigneur et il faut que les choses changent, les mentalités changent. Et il y a toujours des infiltrations où l'ennemi essaye de faire des choses mauvaises. Et là on voit que c'était vraiment une perversion de qui? Du peuple de Dieu. Jésus va dire au verset 17 qu'il va donner quoi? Il va donner au vainqueur. Que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Un caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit.
Yanyegejwe kandi nzomuhibuye gera kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arizi ataruzori habwa.
Qu'est-ce que c'est que la manne cachée?
Bega mano inyegeje niki?
L'idée ici, la manne, rappelez-vous, la manne c'est ce qui descendait du ciel surnaturellement, la nourriture.
Manu nivyo kujya byava mu ijuru bije ku isi.
Et ici, qu'est-ce que ça veut dire?
Aha bigomba gusobanura iki?
Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un se tient dans la vérité.
Nuvuga ngo igihe cyose umuntu ahagaze mu kuri.
Qu'une église se tient dans la vérité.
Ishengero rigahagarara mu kuri.
Que vraiment elle écarte l'erreur.
Iri kigiza iki nyoma.
Qu'elle dénonce l'erreur.
Rikashira habo
ni kinyoma. Au prix de difficultés, au prix parfois de mentalités auxquelles nous sommes confrontés, d'incompréhension, et bien au bout d'un moment, à cette église-là, à ces chrétiens-là, Dieu va commencer à ouvrir des trésors de sa parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une compréhension très limitée de la parole de Dieu. Pourtant, Dieu voudrait nous donner une compréhension profonde de sa parole. La révélation de Dieu vient à partir de deux sources. La première, c'est sa parole. La deuxième, c'est sa présence. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Des gens qui ont une forte révélation, forte expérience de la présence de Dieu, sans avoir une forte compréhension, une grande compréhension de la parole. Ce sont des gens qui ne durent pas. Ils font une très belle expérience. Ils vivent des choses très fortes. Mais ça ne dure pas. Quelques années plus tard, vous les retrouvez par terre. Soit dans des trucs bizarres. Oh, des fois, on rencontre des gens, ils vivent des trucs bizarres. Ils vous disent c'est Dieu. Ils en font des doctrines. Vous dites, mais non, c'est pas de la parole. Mais si, je peux te dire mon expérience. Oui, mais c'est pas dans la parole. Et les gens foncent dans des trucs prophétiques bizarres. On l'a vu je ne sais combien de fois. Il y a eu même ces dernières années la doctrine des paillettes d'or. Les paillettes en or, des petits morceaux d'or. Je
ne
sais pas si certains vous en avez entendu parler, mais il y a des chrétiens qui disent que quand ils étaient dans la présence de Dieu, dans des moments forts, il y a de l'or qui sont tombés sur eux, des petites paillettes, des petits morceaux. Et il y en a quand on fait une doctrine de la paillette d'or.
Et pendant
une période, il y avait des gens qui se réunissaient, qui priaient et qui attendaient que les paillettes d'or tombent sur eux.
Des petits
morceaux, comme de la poussière, mais de l'or.
Et ça fait
presque un mouvement.
Des trucs bizarres.
Il y en a d'autres, ils disaient, ah, j'ai de l'huile sur les mains, c'est l'onction.
N'abandi bavuga ngo ngo ndabona amavuta mu biganza ngo namavuta
n'ubushobozi bw'Imana. Ils commencent à rechercher ce genre de choses.
Ugasanga abantu batangwe kurondera ibikayangana mu biganza.
Regarde, frère Steve, j'ai de l'huile sur les mains.
Gorabi ngo ngwe ngo amavuta yanje mu biganza he.
C'est Dieu, c'est un signe de Dieu.
Ikiganza n'ikimenyeso cy'Imana.
Moi je le vois pas dans la Bible d'abord.
Ivyo navyo mbona mu ijambo ry'Imana ubwa mbere.
Et d'autre part, même si Dieu faisait ça,
n'ubw'Imana yo
rudura. Je pourrais même pas en faire une doctrine.
Et
il y a des gens qui en ont fait des doctrines.
Oui,
il y a des gens comme ça qui se foncent dans des trucs. Et il y a des gens qui n'ont pas de compréhension de la parole.
Ou très
peu.
La
compréhension, la profondeur de la compréhension de la parole arrivera dans ta vie. Quand tu vas méditer, oui. Quand tu vas passer du temps avec Dieu, oui. Mais aussi quand tu vas te tenir pour la vérité. Quand tu te tiens dans des convictions. Dans tes mentalités. Dans ta foi. Dans tes actions. Je dis bien dans tes mentalités. Dans ta foi. Dans tes actions. Qu'est-ce qu'il se passe au bout d'un moment? Dieu va commencer à ouvrir des secrets de sa parole. Des choses que tu n'as jamais vues avant. Alors que tu as eu des enseignements, alors que tu as médité la parole, d'un seul coup, vont s'ouvrir devant toi.
Et
tu vas découvrir ces choses qui vont t'amener dans d'autres dimensions de ta vie, dans différents domaines. Et ça va être des révélations sur révélations sur révélations. Tu ne peux pas motiver ta foi au-dessus de la connaissance de la parole que tu as. Si tu as une connaissance limitée de la parole, je parle d'une compréhension spirituelle, je ne parle pas connaître X versets bibliques, d'avoir fait des instituts bibliques, etc., etc. Ça, c'est une chose. C'est une bonne chose à partir du moment où ça rentre dans ton cœur.
Mais
que cela crée une compréhension de la parole de Dieu. Mais si tu apprends à te tenir pour les convictions de la parole, à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, et à te tenir sur ces choses, au fur et à mesure, Dieu va commencer à ouvrir des trésors. Cette manne cachée, ce sont les trésors de la parole qui viennent à certains moments de nos vies. Vous savez, moi j'ai remarqué une chose. Quand Dieu veut me faire vivre une nouvelle dimension dans ma vie, il commence d'abord par des interrogations en moi. Et après, il m'amène à la parole. Et quand la parole se révèle, la manne cachée se révèle, je peux rentrer dans la dimension beaucoup plus facilement. C'est comme ça que ça marche. Au début, tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas dans ça? Qu'est-ce qui me manque? Ça, c'est une bonne question. C'est le Saint-Esprit qui commence à travailler sur toi. Et obligatoirement, Dieu va te ramener dans sa parole. Parce qu'il voit que tu as soif, mais que tu t'es déjà tenu sur les convictions de la parole. Si tu n'es pas capable de te tenir sur des convictions basiques de la parole, que tu ne discernes pas ce qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Dieu ne t'amènera pas cette manne cachée. Dieu réserve cette manne, cette nourriture qui vient du ciel, au travers de sa parole, pour ceux qui se tiennent pour la vérité, qui refusent de marcher dans le compromis spirituel. C'est-à-dire, si ça vient de Dieu, ils disent, ça vient de Dieu. Si ça vient de la chair, ils disent, c'est la chair. Si ça vient du diable, ils disent, c'est satanique ce truc. Mais ils ne mélangent pas les trois choses. Ils apprennent à discerner selon la révélation qu'ils ont. Et Dieu nous donne plus à ce moment-là. Et aussi des gens qui n'utilisent pas les dons divins à des fins perverses. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Il y a trop de gens, quand Dieu commence à leur donner des dons, ils dévient avec ça. Ils les utilisent à des mauvaises fins. Parfois, c'est pour de l'argent. Parfois, c'est pour de la gloire personnelle. Parfois, c'est pour chercher du pouvoir sur les autres. Et ça, c'est bien triste. C'est vraiment triste. Parce que quand Dieu nous fait des dons, c'est uniquement pour sa gloire. Dieu a dit clairement qu'il ne donnera jamais sa gloire à un autre. Tu auras ta récompense selon ce que tu as fait par rapport à ce que le Seigneur t'aura demandé par rapport à tes dons. Mais quand quelqu'un fait ce que Balaam a fait, alors qu'il était prophète de Dieu, et que Balak lui proposait de l'argent, et que Dieu a dû envoyer un âne pour le bloquer, pour le faire arrêter, alors qu'il allait dans la direction satanique, pour utiliser les dons divins, pour avoir de l'argent, ça. C'est le mauvais exemple. Et ça nous est rapporté plusieurs fois ici.
Et
je vous assure, c'est triste de voir ça. Toutes choses qui paraissent surnaturelles ne sont pas forcément divines, je vous le rappelle. Tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément divin. Tout ce qui est bonne circonstance n'est pas forcément divin non plus. Alors Jésus dit ici aussi qu'il va donner un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Alors, honnêtement, on n'a aucune explication sur ça. Parce que de la Bible, donner un caillou blanc, c'est pas. Franchement, j'ai pas l'interprétation. Un nom nouveau, ça c'est clair, parce que la Bible va nous montrer à plusieurs reprises que Dieu va nous donner un nom nouveau. Que nous connaîtrons. Tu t'appelleras plus Bigirimana ou Akizimana.
Mais
tu auras un nom divin.
Akizimana, umunazoabgizina gijuro.
Ou Bijoga. Ou Derin.
Ayo mazina yo serero ya chubatwise.
Mais on aura un nom nouveau, un nom céleste.
Tuzohabwa yandi ayakugweho.
Et ça c'est clair. Mais l'aspect du caillou, bon. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils écrivaient sur de la pierre. Principalement. Mais c'est tout ce qu'on peut savoir là-dessus. On
ne
peut pas donner d'autres explications. Alors ensuite, Jésus va s'adresser à l'église de Thyatire. C'est la quatrième église. Et au verset 18, Apocalypse, il est dit donc, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Alors nous allons voir un peu dans cette église de Thyatire comment la sorcellerie s'était infiltrée carrément dans l'église. Pour pervertir le leadership. Et en fait, Jésus ici se présente comme qui ? Comme celui donc qui a des yeux comme une flamme de feu. Et ça, je vous ai dit que c'est les yeux brûlants d'amour de Jésus pour l'humanité.
On avait
étudié ça quand, dans les différentes parties, la description des différentes parties de Jésus lorsque Jean reçoit sa vision au premier chapitre. Mais là, c'est vraiment le contraste clair. Les yeux comme une flamme de feu, ces yeux brûlants d'amour pour l'humanité. Mais dont les pieds, regardez bien ici, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est-à-dire l'airain en feu, c'est-à-dire le cuivre en feu. Et je vous rappelle que le cuivre, c'est le symbole du jugement. Le cuivre, ça brille, mais ça ne vaut pas grand-chose. Mesdames, vous aimez les bijoux en or, mais vous n'aimez pas les bijoux en cuivre. Si on vous dit, je t'offre des bijoux en fil de cuivre, tu vas dire, c'est du fil électrique. Donc les reins, surtout les reins ardents, là c'est vraiment le symbole que Dieu est aussi. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour. Mais la Bible nous dit dans Hébreu que Dieu est aussi un feu dévorant. Comme nous l'avons dit précédemment, Dieu n'est pas gentil. Il est bon, mais il est bon, mais il attend quelque chose de l'homme. Repentance et obéissance. Et d'un autre côté, pour l'homme qui ne veut pas faire ça, il y a un jugement. Dieu ne dira pas à la fin, bon, allez, finalement, tous les pécheurs. Je vous entends crier en enfer. Je vais vous ressusciter et puis on va vous blanchir à ce moment-là.
Non.
Dieu est clair. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de jugement. Il
ne
faut jamais l'oublier. Nous pouvons prêcher la grâce et la bonté de Dieu.
Et
la Bible nous dit aussi que Dieu est un feu dévorant. Donc il ne faut jamais oublier cet aspect de Dieu aussi. Et les jugements de Dieu s'exécuteront particulièrement dans les temps de la fin, d'ailleurs, que nous allons étudier. Donc c'est ainsi un feu dévorant. Donc Jésus présente tel quel ici à cette église.
Vous
voyez, quand Jésus présente à chaque église, c'est qu'il y a une raison.
Ce n'est
pas pour rien qu'à la première, il s'est présenté comme celui qui a les 7 étoiles et qui marche au milieu des chandeliers. Qui est vraiment la tête du corps, c'est lui qui dirige son église. Que celui pour la deuxième église à Smyrne, celui qui était mort mais qui est revenu à la vie. Parce que c'était une église qui ne vivait pas, qui ne voyait pas la puissance de Dieu.
Donc
j'ai vaincu la mort, donc vos circonstances aussi ne sont pas quelque chose d'énorme devant moi. C'est petit devant moi.
Oui,
Jésus se présente à chaque fois comme cela. Dans Pergame, l'épée à deux tranchants. Donc, ma parole va exposer les doctrines sataniques. Ma parole va trancher entre la vérité et l'erreur. Ma parole va découper ces choses et vous montrer ce qui vient de moi et ce qui ne vient pas de moi. Et dans la quatrième église, et bien justement pour
Thyatira,
Jésus va clairement dire, je vous aime, mais attention, mon jugement aussi est là. Donc, verset 19, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service ou ton ministère, ta persévérance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières.
ngo ndazi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe n'ingano ushitse ibango ryawe n'ukwihangana kwawe kandi kw'ibikorwa byawe byo hanyuma biruti bya mbere kuba byinshi.
Oui, là on voit vraiment les traits de caractère qui plaisent au Seigneur.
Aha turabona ibyiza ashima kuri iri shengero.
D'abord les choses qu'on va produire.
Ubwa mbere ibikorwa byabo.
L'amour aussi.
Urukundo rwawe.
La foi.
Ukwizera kwawe.
Le ministère.
Ingene bashitse ibango rya
persévérance
kwihangana kwabo.
Tout ça Jésus aime ces choses.
Ibi byose Yesu arabikunda.
Et on voit que cette église était certainement une église qui bougeait beaucoup, qui était très vivante dans le Seigneur.
Biboneka ko iri shengero ari ishengero ryari rizima ryakora ibikorwa by'Imana.
Elle porte des fruits, elle veut encore plus porter de fruits.
Byama ibyamwa ariko rondera kwama n'ibindi.
Donc il devait y avoir certainement des manifestations spirituelles.
Nizera ko hariho kugaragazwa kw'ibikorwa bya
Mwemwe. Certainement des prophéties.
Hari ubuvugishwa
n'ibaza. Certainement des dons, paroles de connaissance.
Hari ingabire zo kuvuga amajambo
y'ubumenyi.
Mais
Jésus va dire quelque chose au verset
20. Il
va dire ce que j'ai contre toi.
C'est
que tu laisses la femme Jézabel qui se dit
prophétesse. Vous
vous rappelez, Éphèse avait éprouvé quoi? Avait éprouvé les faux
apôtres.
Parce que Éphèse rejetait les faux ministères.
Ils
avaient d'autres problèmes, mais ce problème-là, ils ne l'avaient pas.
Éphèse
ne laissait pas des gens intervenir.
Qui
étaient des faux
ministères.
Et là, regardez bien, qui se dit prophétesse, qui se dit
prophétesse.
Les gens qui se disent telle ou telle chose. Et là encore, je vous rappelle, nous devons être prudents si des gens viennent avec des titres. Nous devons être capables de dire qui te recommande. N'acceptez jamais quelqu'un dans votre maison qui se dit prophète, apôtre, tout ce que vous voulez.
Simplement
sur le titre. Je suis désolé de vous le dire encore une fois. Nous voyons beaucoup de dégâts avec ces gens-là.
Et
ils sont là, ils se présentent à vous avec le titre. Ils sont comme ça, ils vous disent je suis prophète, pili pili. Alors toi t'es là, ben moi je suis un simple chrétien, je m'appelle Stevie. Évidemment, tu es là, j'ai un prophète. Et la Bible dit que si je donne un verre d'eau à un prophète, j'aurai une récompense. Oui, mais si tu donnes tous tes bijoux à un faux prophète, tu n'auras qu'une chose, une grande perte.
Ariko ni wamuha ubutunzi bwawe uwo muvugishwa w'inyoma nta kindi uzoronka atari agahombo kanini.
Soyons clairs.
Reka tubivuge uko biri.
Soyons clairs.
Reka tubivuge uko biri.
La Bible nous dit qu'il y a des récompenses à bénir des serviteurs de Dieu.
Bibiliya iravuga ngo hariho impera mu guhezagira
abakozi be.
Ariko abakozi b'Imana bakwekwe. Atari ab'ibinyoma.
Faisons bien attention en face de ça. Et bon nombre de gens se sont fait tellement rouler avec ces histoires. Rouler. Je
ne
peux pas vous dire combien d'histoires j'ai entendues comme ça. Les gens qui vont dans un endroit. La dernière fois, quand j'étais à Goma encore, un type est venu. Grosse voix, très éloquent.
Il
va y avoir des miracles. Venez, je vais faire des miracles pour vous. Mais les gens ont couru dans ces réunions. Et le type, il est reparti avec un 4x4 et 10 ou 15 000 dollars dans la poche.
Je ne
peux pas comprendre comment les gens se font rouler aussi bêtement. Un manque de discernement. Et toute la ville en parlait. Elles en parlaient sur le moment. Et toute la ville en parlait. Après. Mais plus de la même façon qu'avant. Parce que les dégâts étaient faits. Soyons clairs. Ici, cette femme qui se disait prophétesse, ce que Jésus reproche,
ce n'est
pas qu'il y ait des des faux qui passent à droite et à gauche.
Ce
que Jésus reprochait ici, c'est que cette femme enseignait et séduisait mes serviteurs. Cette fausse prophétesse qui fonctionnait avec des esprits sataniques faisait quoi? Elle venait et on lui disait: sœur prophétesse, karibou. On la laissait intervenir, donc on la reconnaissait. Elle était en train de fonctionner avec des esprits sataniques, à faire du dégât dans l'église, et on lui laissait la porte grande ouverte. Donc on la laissait enseigner et on la laissait séduire les serviteurs pour qu'ils se compromettent. Dans l'église que nous avons vue plus haut, c'était pas les serviteurs qui étaient séduits, c'était les chrétiens. Dans Pergame, c'était les chrétiens. Dans Thyatire, ce sont les serviteurs. Pour qu'ils se livrent à l'inconduite, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, Jésus a dit. Au verset 21. Mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Dieu donne toujours un temps pour se reprendre. Mais elle a refusé. Et en fait, le reproche de Jésus ici, et ça, il faut bien le comprendre, le grand reproche, c'est qu'on laissait faire dans l'église des choses qui étaient sataniques et on ne disait rien. Paul a dû se fâcher un jour avec une église, l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes de péché sérieux. Paul disait, je suis vraiment... En fait, il disait, en gros, je suis choqué. Parce que je trouve des choses, des pratiques dans l'église, à Corinthe, que je ne trouve même pas chez les païens. Et il disait que, au point que l'un de vous à la fin de son père, il vient à l'église avec la femme de son père, bisous, hop, alléluia. Et les gens ne disaient rien. Et ça mettait Paul en colère. Ce qui mettait Paul en colère, c'est que c'était du péché ouvert dans l'église, que les responsables connaissaient très bien et qu'ils ne faisaient rien du tout. Maintenant que les chrétiens aient des faiblesses, ça arrive, mais il y a une discipline. Là, le problème, c'est que personne ne disait rien. On laissait cette fausse prophétesse en fait faire des choses qui étaient sataniques dans l'église et personne ne disait rien. Au contraire, on lui disait: vas-y, continue. Elle faisait du dégât dans le leadership et personne ne la prenait par le cou et la mettre dehors de l'église. Parce qu'il est biblique, frères et sœurs, quand quelqu'un met du désordre dans l'église, qu'il soit chrétien ou serviteur, ou des gens qui ne sont pas clairs, qui vraiment sont dirigés par le diable, vous avez deux pieds. Et quand vous voulez mettre quelqu'un dehors, vous vous tenez sur un pied et avec l'autre pied vous poussez. C'est très clair, la Bible est claire là-dessus. On ne peut pas laisser les choses qui vont faire du mal aux chrétiens. Et ça, Jésus était très fâché contre cette église. Et particulièrement contre les leaders. Parce que les leaders sont des bergers. Un berger est supposé protéger son troupeau. Un berger n'est pas en train de voir un loup quelque part en lui disant « Oh mon petit loup, caribou !» Viens ici, petit loup, viens ici, viens ici, viens, viens. J'ai quelques brebis que tu vas manger. Ça,
ce n'est
pas un berger qui est bon. C'est un mercenaire, comme disait Jésus. Quelqu'un qui veut faire du mal aux autres. Un berger est là pour protéger. S'il voit un loup à 3 km à la ronde, il a son fusil et il est prêt à tirer dessus. Il doit protéger son troupeau. Si le berger amène le loup, et que le loup mange les brebis et que le berger dit « Amen ». Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème chez le berger. Extrêmement grave. Et là, Jésus était fâché. Il disait « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. » Donc tu le sais. Cette femme fait des dégâts dans l'église. Elle pervertit le leadership. Elle se dit prophétesse. Tu le sais, je ne fais rien. Et ça, c'est extrêmement grave. La discipline dans l'église, ça existe. Quand il y a des gens qui veulent troubler l'église de Dieu, ils peuvent s'appeler prophète, apôtre, ils peuvent avoir tous les titres qu'ils veulent. Si ce sont des loups, nous devons les empêcher et prévenir le peuple de Dieu. Les gens qui font des dégâts dans les églises, quand ils arrivent dans une église, après c'est la division, c'est l'escroquerie. Ces gens-là, il faut les dénoncer. Il faut dire au peuple de Dieu, attention. Là, c'était un problème de péché, de perversité, de l'esprit du monde, de ces esprits sataniques qui dominait au-dessus de ces régions. Je vous ai montré qu'il y a un royaume dédoublé. Il y a des esprits territoriaux. La Bible ne nous dit pas plus. Mais justement, l'Église doit constamment repousser l'influence de cela. Et là, leur problème, c'était l'impudicité. Et c'était les problèmes de sorcellerie, c'est-à-dire d'offrir des animaux à des faux dieux. Ils sortaient du paganisme. Dans leur société, c'était partout. Si vous voulez aller voir des exemples de ce qui se passe aujourd'hui en Inde, c'est ce que vous trouverez. En Inde, ils adorent des millions de dieux. La grande majorité de la population. Et quand vous allez chez des Indiens qui pratiquent leur religion, ils offrent des sacrifices à Dieu machin, Dieu bidule, Dieu truc. C'est rempli de sorcellerie. Vous rentrez dans la maison de ces gens-là et d'un seul coup vous avez l'impression que spirituellement il y a comme une chape de plomb, quelque chose qui est bouff sur vous.
Vous
sentez que l'atmosphère spirituelle est bizarre. Il y a des présences dans le coin. C'est normal, l'idolâtrie attire les esprits sataniques. Et vous ressentez très bien ces choses. Il suffit que vous soyez né de nouveau. L'Esprit de Dieu est en vous. Et quand vous rentrez dans ce genre de maison, je ne vous dis pas de ne jamais y aller.
Mais
de savoir ces choses-là. Savoir. N'ayez jamais peur. Ça aussi. Oh, je ne vais pas aller là parce que... Non, ça, ce n'est pas un vainqueur. Non, ne pas avoir peur du diable.
Ni
ces esprits sataniques.
Changi mwemu biziwe.
Ne peuvent pas te toucher.
Ntizishobora kugukorako.
Si tu sais te tenir.
Nimbuze guhagarara.
Dans ta position.
Mu kibanza cyawe.
Ils ne peuvent pas te toucher.
Ntizishobora kugukorako.
N'ai jamais peur de ces.
Ntukagire ubwoba bw'izo mwemu.
Un des artifices du diable.
Kimwe mu bintu Satan akoresha.
C'est toujours la peur.
Ni ubwoba.
Quand il arrive à amener un être humain dans des sentiments de peur.
Iyo ashoboye kugushikana ahantu uba mu bwoba.
Là, il peut en faire ce qu'il en veut.
Ashobora kugukoresha cyagomba cyose.
C'est pour ça que la foi n'a jamais peur.
Nico gituma ukwizera kutagira ubwoba.
La foi domine.
Kuraganza kurashikama.
Donc c'est clair qu'ici le péché était là, on laissait cette femme faire ces choses-là, elle était remplie d'esprit satanique, c'était un loup au milieu des brebis.
Urumva uyu mugore yari imbwebwe mu ntama, imfyise mu ntama.
Il refusait d'agir.
Ariko bakanga kugira ico bakoze.
Et ça Jésus a été clair là-dessus.
Et bien alors Jésus
verset 21, je lui ai laissé du temps. Elle a refusé. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et l'envoyer dans une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Vous savez, Jésus défend son Église. C'est triste. Bon, il y a un certain nombre de textes qu'on pourrait lire. Dans les prophètes de l'Ancien Testament, où Dieu vraiment dénonçait les mauvais bergers. Il y a plusieurs passages à propos de ça. Mais vous savez, dans des bergeries, il y a toujours de bonnes brebis qui subissent malheureusement des fois des mauvais traitements. Des fois, c'est parce qu'il y a de mauvais bergers. Des fois, c'est parce qu'il y a des gens qui s'introduisent dans les églises
et
qui font du mal aux brebis. Mais Jésus, toujours, a une porte de sortie pour ces brebis qui sont bonnes. Et qui veulent vraiment marcher avec lui. Vous savez, des fois, on est maltraité où on se trouve.
Mais
Dieu a toujours un endroit où on pourra avoir de la bonne nourriture, où on pourra trouver tout ce qu'il faut pour grandir. Et ça, c'est important. Et Jésus est prêt dans ces cas-là. Et vous savez, parfois, il y a des églises qui sont secouées où Dieu doit vraiment agir directement. Verset 23 dit « Je frapperai de mort ses enfants ». Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Regardez bien, mais à vous tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine, c'est le restant là, des bonnes personnes. Qui n'ont pas, comme ils le disent, connu les profondeurs de Satan, je dis, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Il leur dit, verset 25, seulement ce que vous avez, tenez ferme jusqu'à ce que je vienne. Donc, le Seigneur est clair. Dieu peut permettre certaines choses pendant un certain temps. Mais il y a des moments où Dieu commence à agir puissamment. Et quand Dieu descend et juge, il y a des gens qui meurent prématurément. Il y a tout un tas de choses, il y a du vide qui est fait. Parfois c'est très difficile, mais Dieu protège ceux qui aiment, Et vous voyez au verset 24, il est clairement dit que Dieu ne fait pas d'amalgame avec ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas. Et c'est clair que chacun est responsable de ses propres péchés. Au verset 25, Jésus dit à son église, la bonne partie de son église, les bonnes brebis, de se tenir en position, en bonne position, de se tenir ferme. Vous savez, parfois, il y a des chrétiens qui se retrouvent dans des troupeaux où il y a des gros problèmes.
Et
parfois, on retrouve des gens qui rétrogradent parce qu'ils ont dit, oui, moi, par exemple, dans mon église, à l'époque, il s'est passé ça et ça. Il y a eu tel et tel problème. Et franchement, j'ai tout laissé. Et Dieu ne dit pas ça. Il dit à ceux qui parfois passent par des moments difficiles dans la vie de l'église. Ou des fois, malheureusement, il y a des églises qui passent par des choses extrêmement difficiles. De faire le tri.
Et
de rester ferme.
De
rester attaché à lui. Parce que vous savez, le salut, c'est quelque chose d'individuel. C'est vrai que quand il y a une église qui, par exemple, passe par des moments extrêmement difficiles, où il y a des histoires comme ça, terribles, avec des faux serviteurs, des escrocs, toutes sortes de choses, il y a des souffrances. Mais quand une personne est vraiment attachée au Seigneur, le Seigneur vraiment amènera cette personne là où il le faut. Soit l'église sera changée, soit les responsables seront, je dirais, seront changés, ou ils partiront, ou soit la personne trouvera une autre bergerie
où elle trouvera la nourriture.
Jésus va dire au verset 26 au vainqueur, c'est-à-dire à celui qui suit les recommandations. Et la recommandation, c'est quoi? Tu as la vérité, tu tiens dans la vérité, tu te tiens ferme jusqu'à mon retour, jusqu'à mon retour. Et Jésus dit au vainqueur, donc à celui qui a fait ça, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile. Ainsi j'ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je donnerai l'étoile du matin. À celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Ngo kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu uri n'ugutwi niyumve ico mpuye mabwira amashengero.
Et là on parle de position dans le royaume futur.
Hano rero hageze aho bavuga ibibanza byo mu bwami buzoza.
Mais ici Jésus parle du millénium.
Parce
qu'on régnera sur les nations, non pas dans l'éternité, parce qu'il n'y aura plus de nation telle quelle. Par contre, pendant le millénium, lorsque Jésus va revenir pour la deuxième fois, c'est-à-dire après la tribulation, lorsque Jésus, nous le verrons, je vous expliquerai tout ça, va reprendre la gestion de sa propriété qui est la terre, il nous montre que là il va paître avec une verge de fer les nations. C'est-à-dire que tous ceux qui vont dévier d'un commandement de Dieu seront sanctionnés immédiatement pendant ces 1000 ans. Et pour exercer ses jugements, pour exercer son autorité, Jésus se servira de vous et moi. Maintenant, nous aurons des, selon nos récompenses, selon ce que nous aurons accompli par rapport à ce que le Seigneur nous aura demandé, dans ce monde, alors Dieu nous donnera des positions dans ce royaume, dans le millénium. Alors je vous rappelle qu'il y a une différence entre votre salut qui est gratuit. Tu es sauvé par la grâce, par la foi, et tu vas dans l'éternité avec le Seigneur. Par contre, ta récompense, dont va dépendre les positions, la position que tu auras dans le millénium et pour l'éternité aussi après,
et
ça c'est quelque chose que tu vas gagner avec tes œuvres. Tes œuvres selon Dieu. Pas des œuvres mortes. La Bible nous parle d'œuvres mortes. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous en parle. Des œuvres mortes. Les œuvres mortes, Ce sont des choses que tu peux initier par toi-même.
Et
où tu mets, c'est le Seigneur.
Alors
que Dieu ne t'a jamais demandé de faire ça.
Et que
ce ne sont pas des fruits selon Dieu. Par contre, ce que le Seigneur te demande de faire, par rapport à là où il t'a donné des dons,
et
ce que tu exécutes dans le Seigneur, c'est une réserve d'œuvres que tu fais.
Et
ces œuvres créent ta récompense future,
c'est-à-dire
la position que tu auras dans le
royaume.
Si tu seras petit soldat
ou
grand général, tout dépendra de ce que tu auras fait dans ton corps par rapport à ce que le Seigneur t'aura demandé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons la semaine prochaine.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.